On est de retour aux amateurs de sport. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'été, avec cette période estivale, c'est que ça nous donne le temps de discuter. Ça nous donne le temps de mettre la table sur des sujets, des fois, qui passent un peu rapidement dans l'actualité. C'est bien dur de dire que le championnat du monde de Jean Pascal à 36 ans, ça passait rapidement dans l'actualité. Mais lorsqu'on prend le temps de décortiquer tout ça, ben, ça nous permet de jaser avec les principaux intéressés, entre autres Stéphane Larouche, qui était dans le coin de Jean Pascal lors de ce dernier combat qui a permis à Jean Pascal de remporter le championnat du monde. Stéphane Larouche est avec nous. Salut Stéphane.
Allô Jérémy.
Ça va bien?
Ça va super bien, merci. Ça va tout le temps bien dans ces moments-là.
Oui, c'est ça, redescendu du nuage un peu.
Oui, oui, oui.
Pas quelqu'un qui s'y... Never too high, never too low, Stéphane Larouche?
Ben, c'est pas des moments qui durent longtemps. C'est pour ça que je disais à Jean, profite de ce moment-là, vis-le pleinement, parce que déjà dans une semaine, on va te demander c'est quoi ton prochain combat. Mais c'est quand même dans des moments forts d'une carrière.
Parce que là, en tant qu'entraîneur, tu as eu Lucien Bouté, tu as eu Éric Lucas, tu as eu Jean Pascal. Écoute, t'en as, là. Tu as vécu des moments exaltants. Toi, est-ce qu'on s'habitue à ça?
Non. Je disais que les Jeux Olympiques, ça avait été un moment fort de ma carrière. Le premier championnat du monde d'Éric Lucas, ça avait été quelque chose d'extrêmement gros. Mais aussi, j'étais plus jeune, j'avais moins d'expérience. Lucian, ça a été exceptionnel. Lucian en Roumanie, devant son peuple, ça avait été un moment magique. Mais celui-là, avec Jean, d'être dans l'aréna de l'adversaire, pas bienvenu, pas favori. On nous prend pour un adversaire, on nous traite comme un adversaire partout. Puis d'arriver avec ce résultat-là, c'est extrêmement magique. On était comme, si on inclut les Québécois qui étaient sur place, puis ceux qui prenaient pour Jean, on devait être une cinquantaine dans place sur 5-6 000 à être dans la même gang.
Là. C'est incroyable ça.
Ouais, ouais.
Le coach qui était Stéphane Larouche à tes débuts et le coach qui est Stéphane Larouche aujourd'hui, est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux?
Probablement que je suis un meilleur analyste de la situation. Évidemment, l'expérience, elle nous sert. Intense au meilleur moment, où c'est plus important, évidemment. Contrôler ce qu'on peut contrôler. Pas penser que tout est fait pour nous quand on est à la maison. La boxe est mieux planifiée pour l'athlète en termes de performance. Lorsqu'on est sur la route, on a des bâtons dans les roues. Naturellement, ça fait partie de la game. Quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait plus. Je trouvais ça injuste. Mm-hmm. Je trouvais que le promoteur était malhonnête. Aujourd'hui, je comprends plus la game.
Tu as parlé de justice, d'injustice. Ça prend cette maturité-là également pour être capable d'être un bon coach. Pourquoi tu coaches, Stéphane Larouche? Pourquoi tu es coach de boxe? Pourquoi tu es entraîneur à la boxe?
Oh, écoute, au départ, je voulais pas être coach de boxe. Moi, j'aurais aimé être un architecte, malheureusement.
tu planifies, tu fais des plans.
C'est une forme d'architecture, mais dans un ring, mais c'était pas ce que je voulais faire au départ. Puis, de fil en aiguille, on disait que je comprenais la game. Je n'ai pas été un super grand boxeur, mais je la comprenais bien. Mm-hmm. Puis... Yvon Michel m'avait dit tu devrais vraiment devenir entraîneur avec l'équipe nationale, Stéphane Ouellet et compagnie, puis Éric Lucas. Donc, quand tu as du succès d'une certaine façon rapidement, ben, les gens te remarquent, puis ils te donnent plus de chance. Mm-hmm. On t'invite un peu partout, puis tu mets tes études un peu de côté. Tu as passé des bonnes notes pour être accepté en architecture, donc tu restes entraîneur.
OK. Parce qu'à un moment donné, tu as connu beaucoup de succès. On se souviendra de l'époque de la défense de titre, des défenses de titre de Lucien Bouté au Centre Bell. C'était la folie furieuse. Là. Moi, j'appelle ça un peu l'âge d'or de la boxe parce que tout le monde trippait là-dessus. Et on parlait de toi comme étant le meilleur coach de boxe, que tu étais la référence. Est-ce qu'en quelque part, ça devient pas une certaine pression pour toi-même d'être ciblé comme étant le meilleur? Est-ce que tu t'es posé cette question-là à un moment donné?
Pas vraiment, parce que tu le fais vraiment pas pour ça. Tu le fais parce que t'es passionné, puis tu travailles aussi fort avec ou sans résultat. Puis bien souvent, on a eu des défaites, puis on avait travaillé très, très fort. Puis le travail n'est pas reconnu dans ça. Alors, à force de travailler fort, à force d'aimer ça, puis de travailler, puis de bûcher, ben tu finis par avoir du résultat. Puis à un moment donné, t'as un protocole, t'as une recette qui fonctionne, tu l'appliques. Jusqu'à temps qu'à mener la recette, elle fonctionne moins bien, mais tu sais que l'effort est quand même là. Tu travailles pas moins fort parce que t'as pas de résultat. Je suis certain que les entraîneurs qui gagnent la Coupe Stanley travaillent de la même façon qu'ils la gagnent ou qu'ils la gagnent pas. Mais à un moment donné, la puck, elle se déplace pour toi, puis nous, le boxeur est sur une bonne lancée, la promotion est différente. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, mais tu deviens entraîneur finalement en bout de ligne parce que tu es vraiment passionné de ça. C'est un mot qui est un peu large, mais en bout de ligne, c'est, encore une fois, c'est t'apprends à vivre, c'est un style de vie de, qui te permet de le vivre, puis de le performer, puis de l'apprécier, puis de le respirer tous les jours.
On s'entretient avec Stéphane Larouche, qui était dans le coin de Jean-Pascal lors de ce combat qui lui a permis d'être champion du monde. C'était le week-end dernier du côté de Brooklyn. Stéphane, est-ce que tu peux imaginer ta vie sans être dans un gymnase?
Oh oui, je me vois relax aussi. Je peux me voir sur un lac à la pêche.
Ah oui, oui.
Je peux me voir dans une quincaillerie, parce que j'aime aller dans les quincailleries, j'aime les rénovations. J'ai plein de passions, puis j'ai plein de projets aussi pour plus tard, mais on dit qu'un entraîneur, ça prend pas vraiment de retraite. On est supposé d'être vraiment bon quand on est vieux. Fait que éventuellement, je vais être bon.
Éventuellement. Ouais. Est-ce que tu vas arriver à un temps où tu vas juste choisir qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Exemple, là, t'as choisi de travailler avec Jean-Pascal. Et à la limite, pour nous, de l'extérieur, quand on a appris l'association, ça peut être un peu surprenant parce qu'on se disait, Stéphane Larouche, il me semble que c'est un gars qui est strict, qui est carré, il faut que ça fonctionne comme ça. Et là, t'embarques avec Jean-Pascal qui est extrêmement professionnel dans le rig, mais un peu l'antipode, qui est éclaté comme personnage. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'ajuster, exemple, à un bonhomme comme Jean-Pascal?
Je pense que, honnêtement, oui. Puis probablement de façon réciproque aussi. Je suis convaincu que Jean, quand il est arrivé dans mon gymnase, s'est dit « Ouais, ça sera pas facile. » On n'avait pas des atomes crochus en commençant. Mais graduellement, on a appris à se connaître. Mais pour revenir à ta question, je suis rendu, moi, à l'étape où j'ai envie de travailler avec les athlètes que je choisis ou les athlètes qui vont venir me rencontrer selon le candidat, je vais prendre une décision. Mais je ne travaille pas avec tous les athlètes.
Qu'est-ce que ça prend pour avoir une décision positive de ta part? Qu'est-ce que tu cherches à un athlète?
Mais l'athlète qui veut vraiment performer, qui va avoir le style de vie en conséquence, puis l'athlète qui est une bonne personne puis qui mérite qu'on l'aide. L'athlète qui a donné beaucoup à ce sport-là puis qui veut un deuxième souffle, un troisième souffle, je vais y penser aussi. Et évidemment, l'athlète qui sort des Jeux olympiques, qui veut être guidé, comme je l'ai présentement avec Wilfred Sey, un jeune Camerounais qui est vraiment doué, comme il y en aura certainement d'autres là, après les prochains Jeux olympiques.
Le fait que tu as été dans le coin de plusieurs champions du monde, est-ce que ça fait en sorte que quand les jeunes ou d'autres boxeurs viennent te voir que c'est le Stéphane Larouche oui et on embarque là-dedans? Est-ce qu'on accepte absolument tout ce que tu dis ou tu dois négocier avec les futurs boxeurs ou ceux que tu connais qui viennent te voir?
Ben, si c'était des Québécois, uniquement, je te dirais oui, mais dans les derniers temps, on a plusieurs nationalités. Puis on a des athlètes qui arrivent avec des habitudes qui sont extrêmement intéressantes. Moi, j'aime poser des questions. J'aime savoir pourquoi ils sont devenus si bons que ça, comment ils se sont développés. Puis tu vois, il y a la majorité d'athlètes qui viennent du Bloc de l'Est qui font pas beaucoup de sparring à la maison, ou dans leur gymnase. Qui, exemple, un Sergei Kovalev, ça n'a pas fait beaucoup de sparring. Ça fait beaucoup de travail technique. Tu dis, s'ils sont si bons que ça, s'ils ont développé tellement de méthodes de réaction, pourquoi qu'on ferait pas un peu à leur manière aussi? Donc moi, je prétends pas tout savoir, tout connaître. Je pense qu'on apprend tous les jours. Je suis allé en camp d'entraînement avec Jean. J'ai rencontré des jeunes entraîneurs. Je les ai regardés travailler. Puis je suis certain que je me suis amélioré encore un peu. Puis d'avoir un nouvel athlète qui vient de l'extérieur, je vais lui montrer la recette globale. Mais si on peut intégrer ses habitudes de vie à lui, puis ses habitudes de boxe puis de gymnase, puis ça peut nous faire en sorte qu'on va devenir meilleur, c'est clair qu'on va le faire. Faut pas avoir trop d'ego là-dedans.
On a parlé juste avant le début de l'entretien. On se parlait à l'extérieur du studio où tu me parlais de la défensive de Bivol. Tu me disais, c'est un Russe, il se défend avec ses avant-bras. Le fait de connaître d'autres boxeurs, ça permet également d'avoir des données, des datas pour des boxeurs potentiels que vous pouvez affronter également.
Oh, absolument. On a des fois des copies du gars contre qui on va se battre dans notre propre gymnase. Puis ça nous donne une assez bonne idée de ce qui nous attend parfois en compétition. Puis le fait de voyager beaucoup également à suivre les événements de boxe amateur, ça te donne une assez bonne idée des boxeurs qui s'en viennent. Tu sais, Lomachenko, on l'a vu arriver depuis 2012. Golovkin en 2004, qui était dans les mêmes Jeux olympiques que Jean-Pascal. Alors, on les voit arriver longtemps en avance. André Ward était là aussi, mais il était passé en dessous du radar. Mais il était compliqué à boxer, Ward. Il est encore aujourd'hui. Donc, on finit par les revoir, par les reconnaître. Puis les pays, d'un pays à l'autre, les styles se ressemblent de plus en plus.
Et Lomachenko est assez exceptionnel, par contre. La rapidité, ça se peut pas, là.
Ouais, mais tu sais, l'ordinateur, présentement, l'ordinateur de boxe, tu sais, toucher sans se faire toucher, Lomachenko, il est à la fine pointe de son ajustement. Jusqu'à quand ça va durer? Probablement que s'il grimpe d'une catégorie encore, il va avoir déjà qu'il y a un petit peu plus de misère, là, parce qu'il est moins fort physiquement, ce poids-là, qu'il était à 126 ou à 130 livres. Là, il se bat contre des gars de 135, puis on a pu voir à son dernier combat qu'il est moins impressionnant physiquement, mais présentement, il est ajusté de façon là, exceptionnelle. Et ce que ça donne, tu vas dans des gymnases, puis là, les gens veulent devenir des Lomachenko. Mais tu sais, Lomachenko, il y en a un avant.
Ça, mais tu deviens pas ça. Non. Tu as ça inné, on le développe, ou tu l'as pas du tout.
Et tu peux prendre des parties de Lomachenko. Comme à un moment donné, tout le monde voulait des Roy Jones, tout le monde voulait être des Floyd Mayweather. Il y en a eu juste un dans chacun de ces groupes-là. Donc, il faut que tu prennes ce qui peut être bon pour toi, mais tente pas de le faire en copie. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que il y a des tendances. Là, on est à la tendance Lomachenko, qui fait beaucoup de travail avec ses réflexes, avec ses déplacements, son spatio-temporel. Ce qui est extrêmement rare en boxe.
Stéphane, si tu veux bien, on va faire une courte pause et au retour, on poursuit notre conversation. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. On est de retour aux amateurs de sport en compagnie de Stéphane Larouche. Dis-moi, évidemment, on voit Jean-Pascal, 36 ans, être là. On a l'impression que si on recule quelques années, 36 ans, c'était peut-être vieux pour un boxeur maintenant. La condition physique des boxeurs, je parle pas de la tête, mais je parle du corps. La condition physique semble exceptionnelle. On a vu Manny Pacquiao qui est encore là. Floyd Mayweather est toujours en quelque part pour aller faire une coupe de millions. Comment ça se fait que ces athlètes-là sont capables de durer comme ça?
Je l'ai dit plusieurs fois cette phrase-là, mais c'est le style de vie. Il faut que tu peux pas abuser de toi, tu peux pas abuser de ton corps trop rendu là. Tu peux pas récupérer de la même façon. Tu dois être conscient que tu as besoin de plus de repos. Tu dois être conscient que ton alimentation devient importante, que tes heures de sommeil soient de qualité. Tu peux pas prendre des bouchées d'eau comme tu le faisais dans le passé. Puis si tu fais ça, tu vieillis bien. Évidemment, nous, on fait de la boxe. Puis à faire de la boxe, il ne faut pas se compter d'histoire. Si tu as trop de coups sur la tête, tu vas réduire la durée de ta carrière. Mmh. Il y a un nombre de coups X pour un athlète qui n'est pas le même nombre de coups que pour un autre athlète qui peut recevoir au cours de sa carrière avant de se détériorer ou avant de perdre son rythme, de perdre ses réflexes, de perdre ses repères. Puis ce nombre-là, on le connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut l'éloigner le plus possible. Donc, le plus bel exemple, il y en a quelques-uns, Floyd Mayweather, qui s'est presque jamais fait frapper, qui est encore bien physiquement, qui boxe encore bien, s'il le voulait. Bernard Hopkins, qui était le roi de la défensive, qui a pas pris beaucoup de mauvais coups dans sa carrière, qui a été surprenant dans les dernières années. Pacquiao, c'est un gars qui en a donné plus qu'il en a reçu, donc il est encore efficace.
Mais en a reçu quand même des pas pires aussi.
Ouais, exactement, mais il y a des doutes par rapport au statut de Pacquiao parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails parce qu'il faut pas perdre de vue que quand il est devenu champion, il pesait 108 livres. Puis de performer contre des gars de 147, c'est assez impressionnant. Donc, il y a un produit, il y a eu une phase d'entraînement assez magique dans le cas de Pacquiao. Mais tout ça pour dire que ta défensive devient un peu la sécurité sur la durée de ta carrière.
C'est intéressant. Dernièrement, puis ça, j'ai déjà abordé la question avec toi tout récemment. Et dernièrement, il y a deux boxeurs qui sont décédés. Est-ce que toi, tu t'es posé la question en tant qu'entraîneur, en tant que coach, jusqu'où je vais avec un athlète? Est-ce que ça, la question t'est venue en tête pour dire il faut pas aller trop loin? Puis comment faire pour savoir quand c'est trop loin?
Tout le temps et constamment, on se pose cette question-là. Mais je pense que nous, les entraîneurs, sommes les mieux placés pour voir l'état de notre boxeur, parce que je suis pas médecin, mais j'ai côtoyé beaucoup de médecins. Je suis pas neurologue, j'en ai côtoyé également. C'est extrêmement difficile de voir les dommages causés à un cerveau avec des examens, que ce soit un scan, une résonance magnétique, un électroencéphalogramme. C'est extrêmement difficile. La meilleure manière de voir les dommages, ce sont presque toujours et simplement des symptômes. Quelles sont la gravité des symptômes? Et ça, moi, mon boxeur, peut me le dire. Et si ça devient plus grave, il va y avoir des symptômes qui sont apparents. Ça, moi, je peux les voir. Je commence à les voir avec les années. Je suis capable de les détecter. Fait que mon boxeur qui a des symptômes, qui est un peu plus hypothéqué qu'avant, j'en suis conscient. Maintenant, après ça, si on ajoute la déshydratation, là, ça devient extrêmement important. Mm-hmm. Puis, on ne tire pas de conclusion, mais force est d'admettre que des boxeurs ou les accidents qui arrivent dans le ring sont souvent dans des catégories de poids où il y a beaucoup de déshydratation. Si on regarde le nombre d'accidents versus le nombre de combats, il n'y a presque jamais d'accident chez les poids lourds. Ils ne se déshydratent pas pour faire le poids. Mais c'est souvent dans des catégories de 120, 130, 140 livres, 150, où les gars ils vont tordre l'éponge en masse. Puis maintenant, la question à se poser, encore une fois, c'est bon, de quelle façon il s'est déshydraté? Est-ce qu'il s'est bien réhydraté? C'était quoi son protocole? Est-ce que pendant ses entraînements, il a été indiscipliné puis il a fait des entraînements en étant déshydraté? Le coup de poing que tu vas recevoir au cerveau lorsque tu es bien hydraté n'aura pas la même conséquence qu'un coup de poing sur un cerveau déshydraté. Donc, si tu as fait 2-3 entraînements où tu n'as pas bu d'eau, 2-3 entraînements où, par exemple, la veille, tu aurais pris beaucoup d'alcool, tu es allé t'entraîner quand même, tu t'es fait frapper, tu vas avoir plus de dommages dans ce matin-là que tu vas avoir des bienfaits. Fait qu'il y a un paquet de facteurs. Puis ça, c'est notre job à nous, de s'assurer que le boxeur il est bien encadré, qu'il se développe bien, puis à la limite, qu'il peut faire ce qu'il veut faire. S'il n'est plus en mesure de le faire, c'est à nous. C'est pas facile de dire à un boxeur ou à un athlète, je pense que tu es rendu au bout du rouleau, tu devrais penser à faire d'autres choses. Mais on est quand même assez bien placé pour pouvoir les analyser, puis les guider, puis évidemment les aider à prendre une décision qui est éclairée.
Est-ce que Jean est au bout du rouleau?
Non, pas encore.
Il y en a encore?
Jean, il a une force de la nature, un peu comme Arturo Gatti avait. C'est des gens qui ont une capacité physique. Il y a un coup qui est extrêmement solide, puis on peut le voir sur les photos d'ailleurs. Il y a une structure physique, Jean, qui fait en sorte que c'est impressionnant comment il est capable de prendre un coup de poing. Mais le jour va venir aussi, moi je détectais des choses chez Jean, c'est clair que la première personne que j'aviserais, ce serait lui. Puis, de la façon présentement dont il prend sa carrière, il la prend très, très au sérieux, ben il met les chances de son bord également.
Stéphane Larouche, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous visiter en studio. C'est toujours un plaisir,
Jérémy.
Voilà ce qui conclut cette édition des Amateurs de sport. Gros merci à Maxime Pépaquet à la mise en onde. Restez là au retour. C'est Jérémy Filosa qui s'amène pour Bonsoir les sportifs. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne soirée à notre antenne.